Journée mondiale de la radio. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Lara rassemble 70 radios associatives au plus proche de leur territoire
pour des émissions spéciales et des plateaux débats le samedi 13 février.
Une action coordonnée par l'Assemblée régionale des radios associatives.
Émission spéciale, Journée mondiale de la radio 2016.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur vos radios associatives. À l'antenne aujourd'hui, Marie-Hélène de Radio Bartas et Guillaume de 48FM pour une émission qui va être multidiffusée, une émission réalisée dans le cadre de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives. Une émission que vous pourrez retrouver sur Radio Bartas, 48FM Mende, Radio Margeride, Radio Larzac, Radio Lacône, Radio Temps Rodez, Radio Albigès, Radio Sainte-Afrique, Erdo Temps Lavore, CFM Rodez, CFM Villefranche, CFM Corde et Antenne Doc.
Et tout ça dans le cadre de la Journée mondiale de la radio ce samedi 13 février.
Alors on y reviendra sur cette journée mondiale de la radio, mais on peut tout de suite vous dire en deux mots que c'est aujourd'hui la journée identifiée par l'UNESCO pour parler de la radio, et bien sûr on a décidé de le faire.
Alors une petite idée du programme de l'émission. Dans un premier temps on va parler justement de cette journée mondiale et du thème de cette journée pour cette année. On va y revenir tout de suite. Dans un deuxième temps on vous parlera de différents regards des radios associatives. Et là, vous allez avoir des sons de différentes radios associatives de notre région. Et puis, dans un troisième temps, on va parler de l'Assemblée régionale des radios associatives. Pourquoi on a ressenti le besoin de s'unir pour travailler ensemble.
Alors, avant de rentrer directement dans ce premier thème de la Journée mondiale de la radio, on va partir à l'écoute de vous, auditeurs, parce qu'une radio sans auditeurs, ça ne servirait pas à grand-chose. Et donc, on est parti à votre rencontre avec, derrière le micro, Radio Lacône et 48FM, à la rencontre des auditeurs.
Qu'est-ce que vous aimez écouter à la radio ?
À la radio, j'aime bien écouter tout ce qui concerne les musiques assez anciennes, plutôt langue étrangère. J'aime pas trop tout ce qui est moderne, etc. Les musiques qui ne passent pas à répétition, j'aime bien tout ça.
Qu'est-ce que j'aime écouter à la radio ? Un peu tout. J'aime beaucoup écouter la musique. J'adore écouter des émissions, on va dire documentaires, qui m'apprennent quelque chose.
J'aime écouter la musique, j'aime les informations locales. J'aime aussi l'horoscope matinal qui va me dire quel jour je vais passer.
La musique, des fois les informations, ça dépend de quel sujet, les échos de la région.
J'aime bien écouter la musique, les jeux, les reportages, les informations de la région et aussi quand il y a des humoristes à la radio.
J'aime beaucoup la musique, c'est vrai, parce que c'est un moment où on peut se détendre et c'est... Parce que j'écoute beaucoup la radio en voiture.
J'aime écouter les émissions culturelles et la musique.
Et à quel moment vous écoutez la radio ?
Le matin en me réveillant ou dans la journée, quand j'ai le temps.
Le matin en me réveillant et ensuite à tous mes trajets en voiture.
Un peu n'importe quand, évidemment comme tout le monde quand je suis en voiture, c'est sûr. Et autrement, chez moi, quand j'ai le temps d'écouter la radio, de l'écouter pour de vrai, ce qui n'est pas toujours évident à la maison.
Le matin, en partant au travail.
Dans la voiture, le soir ou le week-end ?
Alors, j'écoute la radio de deux manières régulières, on va dire le matin en me levant donc, et puis dans la voiture. Donc ça va être plutôt l'après-midi la voiture. Et donc je passe mon temps à zapper parce que je supporte pas certaines, certains partis pris de certaines radios. Et donc j'aime beaucoup, je zappe tout le temps en fait.
Ouais, j'aime beaucoup la nuit à la radio. Un peu moins maintenant parce que je travaille le lendemain. Hein. Mais enfant et ado, surtout ado, j'adorais écouter la radio à partir de 9, 10 heures jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. C'est merveilleux, c'est un moment unique. Quoi.
Quel est votre avis sur la radio comme média?
Moi, ce que j'aime à la radio, c'est qu'on ne perd pas de temps grâce à elle. C'est-à-dire qu'on peut faire autre chose en écoutant la radio. Tandis que quand on regarde la télé, on est obligé de regarder la télé pour suivre. La radio, on peut conduire, on peut cuisiner, on peut faire les devoirs aux enfants en écoutant la radio. On peut faire plein de choses en écoutant la radio.
À la radio, c'est juste la voix qui compte.
J'aime beaucoup écouter la radio, je sais pas. C'est agréable en fait. Le fait d'écouter, on est bien. C'est un moyen aussi d'information.
À la télé, il y a des images choquantes des fois. Enfin, ils racontent pas tous les détails. À la radio, quand ils disent les informations, on peut imaginer ce qui s'est passé et tout.
Bah déjà, il y a une offre qui est fantastique. On a eu du classique jusqu'au rap, de France Culture jusqu'à, je sais pas, une radio confessionnelle, on va dire. Enfin, il y a une offre qui couvre pratiquement toutes les demandes. Donc je trouve ça, chacun peut y trouver son bonheur.
J'ai l'impression que, en fait, comme c'est dépourvu d'images, j'ai l'impression que les mots sont plus authentiques, plus vrais. J'ai l'impression que c'est les gens qui sont ont plus une envie de relation, de communiquer quelque chose. Moi, ça, c'est vraiment une impression que j'ai. Voilà.
C'est un média que j'aime beaucoup parce qu'on peut l'écouter à des moments improbables de la journée et que c'est toujours quelque chose d'enrichissant.
La radio est très importante puisque c'est une personne, en fait, ou deux personnes qui s'adressent à l'auditeur de manière directe, on va dire. Donc c'est beaucoup plus profond, on va dire, les choses sont profondes.
Pour moi, c'est la radio qui fait rêver, enfin c'est le média qui fait rêver, quoi. On n'a pas d'image, c'est vraiment subjectif, donc c'est vraiment formidable.
J'aime la radio.
Émission spéciale, Journée mondiale de la radio 2016.
Voilà pour ce micro-trottoir dans les rues de Lacon et de Mende pour savoir ce que pensent de nos auditeurs de la radio. Nous vous rappelons donc que c'est une émission exceptionnelle pour cette journée mondiale de la radio. Alors qu'est-ce que c'est qu'une journée mondiale de la radio? À quoi ça sert? C'est peut-être Guillaume, tu peux nous en dire un mot?
Oui, alors le 13 février, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio organisée par l'UNESCO. Le thème de 2016 est en écho avec l'actualité, on va en parler dans les minutes qui suivent, l'actualité du monde, et c'est le rôle de la radio en situation d'urgence et de catastrophe humanitaire. Et finalement, aujourd'hui, c'est une date pour célébrer la radio en tant que média, hein, que, voilà. C'est aussi développer la coopération entre radiodiffuseurs, hein, entre radios. Et cette émission réalisée à plusieurs radios, vous l'avez compris, s'inscrit totalement dans cet objectif. Et puis, c'est encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires. Radio communautaire, c'est le nom pour l'appellation mondiale. En France, on appellerait ça plutôt une radio associative, pour promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression, l'égalité des genres sur les ondes. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la parité.
Voilà. Et les radios associatives, donc, qu'on appelle ailleurs dans le monde radio communautaire, c'est un beau mot d'ailleurs. Hein. Mais bon, chez nous, c'est radio associative. Eh bien, en France, et notamment dans notre région, dans notre grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, on a décidé de participer à cette journée. Ça nous semble important que cette journée puisse également valoriser les radios associatives.
Alors, pour justement rentrer dans ce thème de cette journée mondiale de la radio, on va vous proposer d'écouter le message d'Irina Bokova. C'est la directrice générale de l'UNESCO qui a livré un message, justement, à l'occasion de cette journée.
La radio est l'un de nos alliés les plus puissants en cas de catastrophe naturelle et dans l'urgence humanitaire. Elle nous permet de prévenir du danger et de mobiliser les gestes qui sauvent. Elle nous aide à diffuser des informations vitales pour protéger les vies humaines, pour accompagner la reconstruction. La radio recrée du lien entre les communautés, elle rétablit le contact entre les parents et des enfants, entre des familles déchirées par les crises. La communication peut redonner l'espoir, et pour cette journée mondiale de la radio, nous célébrons ce pouvoir d'un média de la proximité par excellence. Et je l'appelle, en ce jour, tous les États membres de l'UNESCO à soutenir et renforcer les capacités des radios, notamment les communautaires. Nous devons rapprocher les acteurs humanitaires et les professionnels de la radio pour qu'ils travaillent ensemble. Et nous devons rappeler constamment qu'en situation d'urgence, la liberté d'information et la sécurité des journalistes sont essentielles et sont des moyens de renforcer la liberté et la sécurité de tous. Ensemble, libérons le potentiel de la radio. La radio sauve la vie. Tel est le message de l'UNESCO aujourd'hui.
Voilà, donc on vient d'écouter donc ce message de la directrice générale de l'UNESCO. Maintenant, on va s'intéresser justement à ces radios et au rôle des radios dans ces coopérations aussi, dans ce lien dans le monde, des radios dans le monde. Et pour ça, on a un premier invité. On retrouve maintenant Jean-Paul Gambier, président de la FRANC-LR, la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon, mais c'est surtout en tant que membre du conseil d'administration de l'AMARC Europe, l'association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, qu'on retrouve Jean-Paul. Et donc, Marie-Hélène, une première question pour Jean-Paul. Bonjour d'abord, Jean-Paul.
Et voilà, bonjour. Bonjour Jean-Paul, et donc puisque tu es donc membre du conseil d'administration de l'AMARC, donc de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, je pense que tu dois pouvoir nous parler un petit peu du paysage des radios dans le monde.
Alors je vais d'abord commencer par l'Europe, parce qu'en fait si je suis administrateur à l'AMARC, c'est dans sa section européenne qui est basée à Bruxelles, et expliquer que ce soit dans cette partie occidentale de l'Europe et plus encore si on s'approche de l'Europe centrale et orientale et du bassin méditerranéen, les radios associatives françaises font un peu visage de parents riches, puisque nous avons acquis de longues luttes un statut qui pour beaucoup semble privilégié. Dans ces pays, il arrive que les fréquences qui sont utilisées par les radios associatives, qu'on appellera communautaires dans tous les autres pays d'Europe, ces fréquences sont attribuées par des autorités qui ne sont pas nécessairement nationales, qui ne sont pas nécessairement régies par une autorité indépendante, et qui parfois résultent d'appels à la concurrence avec des attributions qui sont très problématiques pour des opérateurs du tiers secteur de la communication, c'est-à-dire les radios communautaires, les radios qui remplissent des missions en France de communication sociale de proximité, des radios citoyennes pour faire court dans le reste de l'Europe. Leur statut n'est pas forcément reconnu par la loi et souvent les pouvoirs publics minimisent l'importance de la place de ce type de communication dans le paysage radiophonique.
Alors, tu as commencé à l'esquisser en parlant de ce paysage des radios, mais finalement, les enjeux, c'est l'accès aux fréquences, c'est la possibilité de pouvoir émettre et d'avoir ce rôle de communication sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux vraiment pour ces radios, et puis le financement évidemment, mais voilà, quels enjeux finalement tu identifies pour ces radios communautaires dans le monde?
Comme ça a été dit, l'accès aux fréquences en soi est un problème, puisque dans un certain nombre de pays, l'accès aux fréquences fait l'objet d'une redevance, ce qui n'est pas le cas en France. Donc il n'y a pas toujours dans une équipe associative le moyen d'être au niveau des paiements de redevances qui sont exigés par les pouvoirs publics. Et ensuite, dans un certain nombre de pays, le fait qu'on puisse librement s'exprimer sur les ondes, en soi, fait problème. Actuellement, les pays qui sont un peu sous les projecteurs de l'actualité pour leur service public, que dire des radios associatives dans ce cas-là, ce sont des pays comme la Pologne ou la Hongrie, où émettre à Budapest, comme c'est le cas de Tilos Radio, relève d'un combat permanent, de lutte contre des procédures abusives à leur encontre, tout simplement parce que ils donnent librement la parole aux citoyens et que ça peut déranger. Ça, c'est ces premiers enjeux. Et ensuite, c'est d'une manière générale l'enjeu de la capacité pour les citoyens, où qu'ils soient, là je m'approche des logiques territoriales, de pouvoir communiquer dans la proximité, à la fois pour autre chose que pour diffuser des messages publicitaires ou des messages officiels émanant des autorités, et dans des parties de territoires qui ne sont pas les grandes métropoles, c'est-à-dire les zones où sont les plus gros enjeux en termes de marché. Si je m'en tiens à la Lozère, j'estime que un Lozérien a autant besoin, et sinon plus, d'une radio de proximité que quelqu'un en ville.
On posera la question tout à l'heure à Aurélie Mayol, vice-présidente de la région et attachée à cette ruralité, sur le rôle des radios en milieu rural.
Alors, tu as pas mal parlé des pays d'Europe, mais bien entendu, c'est une association mondiale, et donc il y a également des radios dans d'autres pays, et notamment dans des pays, on va dire, moins développés, ou dans des pays peut-être plus problématiques, où il y a des conflits, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des liens qu'il peut y avoir entre des radios de chez nous, européennes par exemple, et des radios de pays moins développés ou en voie de développement ?
Alors, la marque, l'association mondiale des radiodiffuseurs communautaires est structurée par continent, pour faire simple, la marque Europe a l'occasion de rencontrer les confrères, les collègues des autres pays en Afrique principalement et à l'occasion des congrès internationaux venant des quatre coins de la planète. J'aurais, pour faire court, plutôt tendance à parler des liens qui peuvent unir les radios communautaires et associatives européennes avec celles du bassin méditerranéen et de l'Afrique, et notamment de l'Afrique subsaharienne. J'en parle d'expérience, puisqu'indépendamment de la marque, les radios associatives réunies au sein de la Confédération nationale des radios associatives en France ont développé des logiques de partenariat nationaux, ou même dans des cas de coopération décentralisée, comme c'est le cas dans l'Hérault. Entre l'Hérault, le département de l'Hérault et le gouvernorat de Medellin en Tunisie, ces politiques incluent des échanges, des jumelages. Ça a été le cas en Lozère avec Radio Margeride, qui était jumelée avec Radio Bédécan à Kati, pas très loin de Bamako. Ces politiques d'échange permettent de toucher du doigt les points communs que nous pouvons avoir. Il y a beaucoup de points communs dans la façon dont le paysage radiophonique s'est bâti au Mali et comment il s'est bâti en France, par exemple. Il y a une profusion de radios au Mali qui est comparable à la densité des radios associatives en France. Et puis, il y a des points sur lesquels, évidemment, il y a de grosses différences, et notamment le modèle économique sur lequel sont bâties nos radios de part et d'autre. Mais néanmoins, on fait de la radio, et on fait de la radio avec, en Afrique, plus qu'ailleurs encore, plus que chez nous-mêmes, un rôle, une responsabilité sociale et éditoriale énorme, dans la mesure où la radio reste encore là-bas le média dominant, parce qu'il est gratuit, parce qu'il marche sur pile, parce qu'il résiste aux intempéries. Pas tout à fait aux attaques djihadistes, je vais y revenir, mais ce média de référence qu'est la radio dans des pays où la tradition est celle de l'oralité apprennent beaucoup à tous les hommes et femmes de radio qui vont là-bas dans le cadre de ces échanges, tout comme les radioteurs, si vous me passez l'expression, des radios africaines, découvrent aussi d'autres façons de faire quand ils viennent chez nous. Et ces échanges ont été particulièrement importants parce qu'ils nous ont enrichis mutuellement. Et c'est un vrai crève-cœur de savoir qu'aujourd'hui, les radios au Mali, et plus particulièrement au Nord Mali, comme ça peut être le cas dans le sud de la Tunisie, sont des véritables enjeux stratégiques. C'est-à-dire que disposer d'une radio pour faire passer des messages de propagande est devenue une priorité quand on investit, quand on envahit un pays. Et de la même manière, des responsables de Radio du Nord-Mali me disaient que lorsque l'armée française est intervenue et qu'elle libérait un village, souvent ils demandaient au groupe l'équivalent du conseil municipal de quoi ils souhaitaient disposer en premier. Si ce n'était pas en premier, c'était en second. Les gens disaient « redonnez-nous notre radio » parce qu'elle avait été détruite par les événements. Donc on voit en quoi la radio dans ces pays-là a un enjeu encore plus prégnant et plus sensible que chez nous.
Voilà, en plus on est au cœur du thème de cette journée mondiale de la radio, avec la place de la radio dans l'implication des radios dans les crises et pour l'humanitaire. Donc c'est bien ce que tu décrivais.
Oui. Je rappelle que la radio a aussi son importance dans le quotidien, et que par exemple, quand on est en Afrique et qu'une ONG intervient, il est de bonne pratique que cette ONG soit en partenariat avec la radio locale, de façon à ce que la population soit au courant de pourquoi une ONG intervient, de qu'est-ce que ça va apporter, de comment on s'empare, comment on s'approprie les infrastructures ou les services qui sont apportés par cette ONG. Ce travail de communication en Afrique se fait par la radio, et donc au quotidien et en temps de paix, déjà rien que pour des questions de vie pratique et de sanitaire, d'utilisation de l'eau, de tri, de développement durable, toutes ces choses-là passent par le vecteur radio. Après, évidemment, en période de catastrophe, en France comme dans d'autres pays du monde, ça n'est pas la technologie numérique qui vient en aide aux populations. Les gens sont prévenus des risques dans leur voiture par la FM analogique, et puis de la même manière, chez eux, ce qui permet d'entendre les messages, ça reste encore le poste avec les piles. Quand toute l'installation de la maison est tombée du fait d'une inondation ou de la coupure d'un réseau. Donc on sait que c'est ce média, celui de la radio et paradoxalement celui de la radio analogique, n'est pas un anachronisme, mais répond bien à ce type de situation, parce que c'est un média souple et c'est un média instantané.
Merci beaucoup Jean-Paul de ce témoignage qui nous a un petit peu ouvert justement en ce début d'émission sur ce monde des radios, et puis qui nous met complètement dans le lien aussi de cette découverte ou de cette redécouverte, dans tous les cas de ce regard qu'on va porter sur les radios associatives ici en France pendant le reste de cette émission.
Et on va retenir cette phrase donc des communautés maliennes, redonnez-nous nos radios, ça c'est formidable. Merci Jean-Paul.
Bonne journée mondiale de la radio, et merci pour votre engagement.
Allez, on va faire une petite pause musicale. Guillaume, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, je vous propose d'écouter Marianne Ayaomak. C'est un enregistrement, une captation à Festivalier, à Langogne. Une captation réalisée cet été avec Radio Bartas et Radio Sommière, et bien sûr Radio 48 FM. Donc voilà, un beau petit concert et donc un petit souvenir de ce moment-là.
Derrière chaque couleur, derrière chaque apparence, derrière toutes nos différences, se cache une vérité. Nous avons tous et toutes le même rêve secret, le même rêve sacré de nous réaliser en toute dignité. Homme, femme, besoin d'égalité, mais c'est aussi en nous qu'il faut aller la chercher. On sait mourir à soi pour se remettre en question et se réconcilier avec son autre moitié. En toute humanité, en toute humanité. Notre histoire est écrite par le principe masculin, extérieur à nous-mêmes, pour pouvoir aller très loin, pour pouvoir conquérir. Imaginons l'avenir, un peu plus féminin, intérieur en nous-mêmes, plus besoin d'aller si loin, pour se reconquérir. Oh oh. Notre histoire est écrite par un dieu masculin, extérieur à nous-mêmes, tout là-haut, là-haut, trop loin, c'est femme en amour, femme en amour, tu te fais 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 femme en amour, objection, votre honneur. Je cherche refuge en un dieu féminin, intérieur accueillant, mais surtout sans jugement, une source d'amour, un foyer chaleureux. Objection retenue. Choisissez votre dieu. Là-bas. Choisissez votre dieu.
Tout simplement parce que j'aime bien, à la base moi j'aurais voulu faire journaliste, bon je l'ai pas fait, mais j'aime bien tout ce qui est médias, raconter un petit peu aux gens bien les informations, la météo et puis surtout faire rire mon public, ça j'aime bien.
Alors avant de faire la radio, c'était surtout de partager un peu le goût que j'avais pour les livres que je lisais et de les transmettre. Quoi de mieux que la radio pour partager ses passions, ses loisirs?
Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien dans votre engagement bénévole au sein d'une radio?
Bah, s'inscrire en fait dans une démarche locale, c'est-à-dire développer tout ce qui est radiophonique sur le local et parler en même temps des commerces, mais aussi surtout bien des événements qu'on peut créer ici dans le Tarn ou encore ailleurs, avec parce que maintenant on a les deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, donc ça c'est sympa, c'est bien.
Bah, avant tout, c'est de pouvoir m'exprimer librement, de savoir que mon point de vue va être entendu, va être apprécié ou pas. Mais c'est surtout la liberté de ne pas être censuré, contrairement à l'écrit où on sait qu'on peut avoir des coupes franches dans ce qu'on va dire. Là, on n'a jamais eu de censure. J'ose espérer qu'il n'y en aura pas. Et tout en respectant les auteurs que l'on lit, on peut donner son point de vue de façon très, très précise. C'est plus que de l'adrénaline, là, c'est la trouille, c'est la peur. C'est très difficile quand on n'a pas ou de formation ou le verbe facile de passer en direct, alors qu'on est habitué à discuter des œuvres qu'on lit en famille, entre amis. Là, on essaye de s'appliquer, de parler doucement. Il faut que tout le monde puisse entendre, comprendre. Donc c'est quand même une épreuve supplémentaire.
Émission spéciale, Journée mondiale de la radio 2016.
Et voilà, nous venons d'écouter un micro-trottoir, toujours dans les rues de Lacône dans le Tarn et de Mende en Lozère. Un micro-trottoir où des bénévoles nous ont parlé, parce que nous allons parler maintenant dans cette deuxième partie des radios associatives. Et les radios associatives ne seraient pas ce qu'elles sont sans les nombreux bénévoles qui y participent. Est-ce que Guillaume, tu peux nous donner une définition de ces radios associatives ?
Alors... bien sûr, une radio associative, c'est un service radiophonique. Alors, service radiophonique, ça fait un peu langage technocratique, mais c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est comme ça que c'est autorisé par le CSA, et c'est ce qu'on appelle les services de catégorie A, comme associatif. Cette radio est portée donc par une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Et les radios assurent donc une mission de communication sociale de proximité en favorisant les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression de différents courants de pensée, différents courants sociaux, etc. Le soutien aussi au développement local, à la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Mais bien sûr, derrière cette définition très large, on a des choses très, très, très différentes. Et on a bien sûr chaque association qui a son projet associatif, et qui peut être très, très divers. Et je crois qu'on va l'écouter, puisqu'on va écouter deux présidents en fait, de deux radios associatives différentes qui vont nous présenter leur projet associatif.
Ouais, on commence donc avec Jacques Viala, le président fondateur dans les années 80 de Radio Margeride. C'est donc au micro de Nathalie de Radio Margeride.
Bonjour Jacques Viala, président fondateur de Radio Margeride. Pourquoi avoir créé Radio Margeride au moment de l'ouverture de la bande FM aux radios libres ?
Alors, lorsque nous avons créé Radio Margeride dans les années 81 ou 82, nous étions assignés trois objectifs. Le premier, c'était de développer les moyens d'information et de communication et d'expression en Margeride. Le deuxième, c'était de participer au développement de la vie associative et culturelle. Le troisième, c'était de soutenir les initiatives économiques, sociales et économiques. La question qu'on peut se poser après 35 ans de fonctionnement, sommes-nous parvenus ?
Voilà.
Alors, je pense que dans l'absolu, nous y sommes parvenus, c'est vrai. Mais nous avons mis un certain temps à le faire. Alors, nous avons mis en place l'information avec l'embauche d'un jeune Parisien qui était en contrat d'emploi-formation avec l'école de journalisme de Montpellier. Et c'est là où nous avons commencé les informations locales. Elles ont perduré depuis sous d'autres formes. Au cours du temps, la radio a connu différentes évolutions. Et ça a été une évolution permanente depuis 30 et quelques années. Alors, bien sûr, avec les nouvelles technologies, à l'époque de la création de Radio Margeride, les téléphones portables étaient à peine sortis. L'Internet n'était pas encore en place. Tout ça a révolutionné aussi notre système de fonctionnement, puisque nous avons des bénévoles qui nous envoient des émissions par Internet, ce qui est quand même très pratique quand on est dans un coin comme nous sommes, excentré de tout.
Alors qu'au début, vous aviez démarré avec des cassettes et des CD.
Des cassettes, oui. Enfin, c'était pas pareil. Nos programmes aussi ont évolué, c'est normal d'ailleurs. Tout a changé, hein. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Comment se concrétise le projet associatif dans la grille de la radio ?
Alors, le projet associatif dans la grille de la radio, c'est 120 associations qui travaillent avec nous, des 5 départements du pourtour de la radio. C'est beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, qui nous écrivent, qui nous donnent aussi quelques dons. Ça prouve bien l'attachement qu'ils ont envers leur radio, d'ailleurs.
Il y a divers rendez-vous au sein de la grille de la radio qui...
Ah ben bien sûr, il y a des rendez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes émissions qui nous parviennent de Clermont-Ferrand, de Saint-Flour, de Mende, et puis quelques émissions qui sont faites sur place par des bénévoles et par le personnel aussi d'ailleurs.
Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être une radio locale rurale? Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité pour vous?
Alors, comme responsabilité, c'est que on a un territoire à desservir et à animer. Et ça, c'est très lourd comme tâche à accomplir. D'autant plus que les radios rurales, comme la nôtre, je l'ai dit, est excentrée de tous les centres urbains et que les déplacements, ils sont plus longs et plus coûteux aussi. Ce qui limite un peu le nombre de bénévoles. C'est un peu l'inconvénient des radios rurales.
Et quels sont d'après vous alors les points forts de Radio Margeride?
Alors les points forts de Radio Margeride, c'est d'abord sa notoriété. Je crois qu'en 30 ans, nous avons fait une place dans le pays qui est conséquente, pour pas dire incontournable. Les points forts sont aussi sa proximité avec l'auditeur. Je crois qu'on a une proximité très forte avec nos auditeurs et ça, c'est vraiment extraordinaire.
Alors, que peut-on retenir dans la grille des programmes qui a la faveur des auditeurs?
Alors, la faveur des auditeurs, vous savez, lorsqu'on a fondé Radio Margeride, on voulait faire de l'information, mais on s'est très vite aperçu que c'était un peu au-delà de nos possibilités. Alors, personnellement, j'aimais l'accordéon et j'ai dit, c'est pas la peine de faire quelque chose que les autres radios, Monte Carlo ou Europe 1 ou France Inter, font mieux que nous, ils sont mieux équipés que nous et plus costauds techniquement. Et il faut qu'on fasse quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Et il faut partir sur l'accordéon. Et alors on est parti un peu sur l'accordéon, le folklore. Et il se trouve que l'accordéon, c'est quand même la base du folklore de ce pays. Et c'est un peu l'âme de ce pays.
Et c'est ce que les auditeurs apprécient le
plus. Et c'est ce que les auditeurs apprécient, vous l'avez compris. Avec les dédicaces notamment.
Et enfin, dernière question, Radio Margeride est-elle tournée vers l'avenir?
Alors l'avenir, on maîtrise jamais complètement l'avenir, mais je crois que l'avenir, c'est aussi de savoir transmettre la succession des équipes. Je crois que faut la succession des équipes. C'est ça qui assure l'avenir des institutions en général.
La continuité.
La continuité.
Vous, en tant que bénévole depuis plus de 30 ans, comment vous avez vécu cette évolution justement depuis les années 80 jusqu'à maintenant? Et quels sont vos meilleurs moments de radio?
Moi, je crois que les meilleurs moments de radio, c'est depuis le début, où j'anime une émission ou deux même, quelquefois. Enfin, à certaines époques, ça en était deux. Mais ça a été toujours un immense bonheur d'animer une émission. Et je me plais vraiment à le faire. Et c'est extraordinaire, quoi. Des rencontres qu'on ne ferait jamais si on n'était pas dans une radio. Lors de mes émissions, la mise en valeur des artistes locaux, des musiciens locaux notamment, est quelque chose d'extraordinaire. C'est un lien social infini, et que du bonheur.
Et on continue avec l'interview du président de Radio Lacône, Christophe Vergely.
Bonjour.
Quel est le projet associatif de votre radio? Pourquoi a-t-elle été créée?
Alors, le projet associatif de la radio est de faire participer dans notre programmation un maximum de personnes de différents âges, venant de milieux sociaux différents, à travers dans notre programmation.
Comment le projet associatif se concrétise dans la grille de la radio?
Par la participation de nombreuses écoles, un club radio avec le collège, mais aussi la participation des maisons de retraite de la montagne et des centres spécialisés, tels que des centres d'handicapés ou de jeunes en difficulté scolaire.
Quel type de programme peut-on retrouver sur votre antenne?
On peut retrouver un programme varié, mais généraliste, avec des émissions donc qui vont être créées par les écoles, la maison de retraite et les salariés de la radio, mais aussi des stagiaires qui vont venir en insertion professionnelle pendant de plus ou moins longue durée.
Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être une radio locale? C'est-à-dire quelle responsabilité, quel engagement?
Alors, être une radio locale aujourd'hui, c'est être à l'écoute de ses auditeurs, satisfaire un maximum de personnes à travers un programme varié, maximum de personnes aussi bien au niveau différence d'âge qu'au niveau culturel ou social, et venir en aide aux associations culturelles, économiques, touristiques de la montagne.
Merci et bonne journée.
Merci, au revoir.
Alors, on l'a entendu dans ces deux témoignages, il y a plein de choses sur nos radios. Alors, voilà, on peut le dire aussi par rapport à nos radios, Marie-Hélène, on va retrouver de la musique,
Bien sûr, beaucoup de musique quand même. C'est souvent, d'ailleurs, on l'a entendu dans le micro-trottoir des auditeurs, ce que les auditeurs aiment entendre.
On va retrouver aussi les infos locales, c'est des rendez-vous, c'est des choses qui sont marquées aussi dans la vie quotidienne aussi, de se retrouver pour les infos. On va retrouver des émissions culturelles.
De la littérature, du cinéma, beaucoup de choses différentes. Et puis encore une fois, avec des marques de fabrique, par exemple entre Radio Bartas et 48FM, on ne passe pas tout à fait les mêmes choses, mais c'est normal, on n'a pas les mêmes auditeurs non plus. Et voilà, on a un petit peu des marques de fabrique.
On va retrouver aussi des émissions avec des publics jeunes, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. On va aussi évoquer les personnes âgées.
Voilà, tout à fait. Sur Radio Bartas, on a une émission spéciale avec la maison de retraite, par exemple. Je sais que ça se fait dans pas mal de radios.
On peut parler aussi de feuilletons radiophoniques, de création sonore, ou même à l'échelle aussi de notre fédération du Languedoc-Roussillon, qui maintenant va s'étendre avec cette nouvelle ARA, on en parlera tout à l'heure, aussi des travaux sur la mémoire vivante, donc l'histoire de notre territoire. Voilà, vous voyez, finalement, c'est plein de choses, les radios.
Et surtout, beaucoup de choses faites, encore une fois, par des bénévoles, et donc en fonction aussi de ce que les personnes peuvent nous proposer. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, dans les radios, un programme préétabli de ce qu'il faudrait faire, mais simplement, un bénévole arrive un jour, il nous dit « j'ai envie de faire ça ». Là, on va avoir sur Radio Bartas, pour donner un exemple, on a quelqu'un qui est venu nous voir la semaine dernière, et qui nous dit « je veux faire une émission sur la musique classique ». Donc voilà, c'est génial, on ne l'aurait peut-être pas faite, mais on va le faire parce qu'il y a quelqu'un qui vient le faire. Et je pense que c'est là-dessus, certainement, qu'il nous faut insister, c'est sur cette place vraiment privilégiée de la population, de tout un chacun,
et
sur nos ondes.
De l'initiative, finalement, de chacun. C'est peut-être justement ce que tu vas nous proposer de découvrir au travers de deux témoignages que tu as enregistrés à Radio Bartas. Deux personnes, deux bénévoles impliqués justement dans des émissions.
Voilà, Catherine, on va commencer par Catherine qui compte régulièrement sur les ondes de Radio Bartas. Bonjour Catherine.
Bonjour Marie-Hélène.
Depuis combien de temps tu animes cette émission Au pays d'Il était une fois?
Eh bien, ça va être la quatrième année. J'ai commencé en 2012.
Ah oui, tu as dû en raconter quelques-uns.
Ben, je crois qu'on en est à la 60e, quelque chose comme ça, 60e histoire.
61 même, je crois.
Ah là là.
Et peut-être aujourd'hui 62. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter des contes à la radio?
En fait, je pense que c'est mon envie générale de raconter des contes et d'utiliser toutes les possibilités pour le faire. Donc, il y a les moments où on est face à un public. Et puis, la radio, c'est un très bon moyen de diffuser ces contes à un large public.
Et est-ce que ça change beaucoup de compter à la radio?
Oui, ça change beaucoup parce qu'à la radio, on ne voit pas les auditeurs. Voilà, on peut les imaginer, mais c'est plus difficile, je trouve, car on n'a pas le retour, en fait.
Est-ce que avant ça, tu avais déjà fait de la radio?
Non, c'est ma première expérience radiophonique. Au départ, on est un peu impressionné par les micros, le casque, le retour de la voix dans les oreilles. Et puis finalement, après, quand on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, on finit par oublier. Et puis j'avoue qu'aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas une difficulté particulière.
On se retrouve, et donc toujours dans ce lien des radios associatives avec les bénévoles. On avait promis deux témoignages, Marie-Hélène. Quels sont les deuxièmes témoins?
Alors, deuxième témoignage, c'est Dédé et David qui animent une émission en occitan. Ça aussi, c'est important. Bon, alors, il y a des radios qui sont spécialisées dans la langue occitane. Nous, ce n'est pas notre cas en Lozère, mais par contre, on a une émission en occitan. On pense que c'est aussi important de valoriser ça. On les écoute.
Ouais, et on salue, on en profite pour saluer tous nos amis des radios occitanes, catalanes, etc., qui justement aussi valorisent ces langues régionales.
Bonjour Dédé et David. Vous animez tous les deux l'émission Lourisoun del Pesquier. C'est l'émission en occitan de Radio Bartas. Alors, depuis combien de temps vous animez cette émission?
Ça fait déjà quelques années. Je me rappelle que c'était Jean-Louis Boutonnet qui m'avait interpellé à ce propos, puisque déjà sur Florac, je faisais un café occitan une fois par mois. Et il m'avait dit ça serait bien de faire une émission radio. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et puis j'ai cherché quelqu'un pour... Et tout de suite, j'ai pensé à David.
On a choisi, dans cette émission, de parler en occitan de la ruralité de Florac. Et parler de la ruralité dans cette langue, eh ben, il y a énormément de choses à dire. Parce que cette langue, eh ben, c'était la langue de nos campagnes. Donc, dès qu'on parle de choses de la campagne, on peut le dire en occitan avec beaucoup de facilité et avec plus d'infos que ce qu'on pourrait le dire en français. C'est une langue qui peut parler de tout, de l'actualité, du passé, mais aussi du futur. On n'a pas, avec Dédé, eu d'envie, de par l'intermédiaire de la radio, de faire apprendre la langue. On n'est pas dans un cours. On propose un temps pour les gens de Florac et les alentours pour entendre parler et conjuguer des verbes et parler et dire des choses dans cette langue. On va proposer aux gens quand même une langue facile. On n'est pas à la recherche de la complication.
On est resté dans la langue usuelle.
Usuelle, voilà.
Ce n'est pas la langue académique. On est resté dans la langue bibo, qu'ils disent, la langue vive.
Alors, cette langue, vous avez fait le choix d'en parler à la radio. La radio, c'est quand même un outil particulier. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce que vous aviez fait de la radio par ailleurs? Est-ce que ça a été difficile pour vous de se mettre devant un micro?
Pas vraiment.
Ouais, moi non plus.
Alors qu'en fait, je n'en avais jamais fait.
Moi non plus. On nous a dit qu'on y arrivait ça pas trop mal. Bon, je pense pas qu'on ait bien évolué. On ne doit pas être trop stressé. Quoi.
Non, voilà. Mais on est détendu quand on vient.
Je pense que le personnel de Radio Barta
y est pour quelque chose.
Pour quelque chose, pour mettre les gens
à l'aise. Oui, ça c'est sûr.
Et puis, il y a aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on dure, c'est que nous, on se fait plaisir.
Ah oui,
voilà.
C'est que du bonheur.
Alors, on peut se dire parfois que la radio, c'est pas forcément le média privilégié des jeunes, qui sont plutôt sur leur téléphone, sur leur smartphone, sur leurs écrans, sur leurs tablettes.
Encore et... que tout à l'heure, dans le micro-totoir des auditeurs, on a entendu pas mal de jeunes, hein, justement, ça m'a marqué.
Tout à fait. Alors, ce qu'on vous propose, c'est justement de découvrir des jeunes qui s'impliquent dans la radio, qui ont envie de faire de la radio, qui même ont expérimenté d'abord seuls au travers d'une web radio et qui se rapprochent d'une radio FM hertzienne. Et donc, on vous propose de découvrir des témoignages de deux jeunes au micro de Radio Temps Rodez.
La radio, tout d'abord, bon, ça apporte évidemment, c'est un moyen de communication. Donc, ça permet de nous de communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas et de communiquer à travers la radio. Et ça nous apprend aussi à être autonome parce que, mettons, je gère une émission avec trois autres collègues à moi et on doit se gérer tout seul. Et on doit faire notre émission de A à Z avec un sommaire, tout ça. Et donc ça doit être bien présenté. Il faut qu'on soit tonique, il faut être dynamique. On a appris aussi à la radio à sourire. Le sourire est très important pour donner envie aux gens de nous écouter. Le sourire, on l'entend dans la voix.
Moi, j'ai commencé à 10 ans à faire de la radio. Et maintenant, donc ça fait 4 ans que je fais de la radio. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte plein de choses au niveau, bien sûr, pour m'exprimer à l'oral. Puis aussi, après, éventuellement, aussi présenter éventuellement ce beau métier qui est la radio et aussi être animateur radio.
C'était juste une envie passagère à la base, comme ça. Je me suis dit, bon, je monte un projet pour voir. C'est devenu comme ça. Et puis, quand le projet a commencé, c'est réellement devenu ma passion. Et depuis, tous les jours, j'en apprends. Tous les jours, je vis radio parce que je fais aussi d'autres choses en web radio. Et je vis radio, j'apprends plein de choses.
Alors, qu'est-ce que tu apprends, justement? Parce que la ministre dit, ben, il faut que les jeunes en fassent, parce que comme ça, ils maîtriseront l'information, ils auront l'esprit critique. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Bien sûr. Généralement, quand on est animateur radio, le réflexe, quand on arrive dans le studio, c'est on ouvre le journal, quoi. Donc, on doit être tenu au courant de l'information. Je regarde le journal avec le journal télévisé avec mes parents. J'écoute la radio régulièrement pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Je me tiens informé et je pense que c'est comme ça qu'on devient des citoyens parce que justement il faut comprendre le monde qui nous entoure.
Bon, je faisais déjà de la radio moi en solo de mon côté en web radio avec mon équipe et tout ça. Oui, j'ai déjà une équipe en fait, je suis directeur des programmes dans une radio et donc du coup en fait j'ai des animateurs et tout ça et pas mal de jeunes de toute la France à faire ça où on se connaît comme ça quand on s'est rencontrés et qui veulent faire de la radio tous ensemble. Comme c'est un loisir plus pour nous vu qu'on peut pas en faire notre métier pour l'instant. Ça reste quand même quelque chose de bien pour nous de pouvoir s'exprimer alors qu'on n'a pas trop on peut pas trop tellement le faire. Par exemple, en cours, on peut pas s'exprimer totalement, on peut pas dire librement ce qu'on pense, ni ni quoi que ce soit, vu qu'il y a les profs, vu qu'il y a d'autres élèves qui n'ont pas les mêmes idées, tout ça. Tandis qu'à la radio, on peut tout dire et c'est vraiment quelque chose de bien.
Avec des limites, hein.
Oui, voilà, tout de même avec des limites et des règles, mais c'est vraiment quelque chose de bien, donc c'est ce qui m'a plu dans la radio et c'est ce qui est... pour l'instant, on est 13. On peut discuter calmement et librement de certains sujets où on demande aux auditeurs qu'est-ce qu'ils veulent. Comme sujet où on les fait passer en direct aussi via une plateforme internet.
Tu rejoins une radio qui est une radio classique, qui émet sur les ondes et aussi sur internet. Pourquoi tu le fais? Parce que la web radio c'est bien, mais là c'est autre chose.
Oui, voilà, moi je trouve que la web radio c'est bien, mais il n'y a pas tout. On peut pas. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas nous se voir ou on ne peut pas. Par exemple, là, on lève la main quand on veut parler. Ça, on peut pas le faire sur Internet parce qu'on ne voit pas les personnes. Et donc, du coup, c'est déjà quelque chose en plus de faire de la FM, vu qu'on peut voir les autres personnes. Et donc, du coup.
Voilà, il y a la relation, quoi. Il y a la dynamique de groupe, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça.
Voilà. Et tu dois rencontrer d'autres animateurs aussi.
Oui, voilà, notamment Fabien ou Elliot.
Émission spéciale Journée mondiale de la radio 2016.
Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Et après ce témoignage de jeunes animateurs, on vous propose peut-être des témoignages d'élus. Parce que les élus locaux, et peut-être encore plus dans nos régions rurales, eh bien, on a eu envie de leur demander qu'est-ce que c'était pour eux la radio associative chez eux, en fait.
Et on commence avec deux élus sur le territoire de Radio Lacaune. On commence avec Alain Ricard, l'adjoint à la culture de la mairie de Lacaze.
Aujourd'hui, je vais vous interviewer pour connaître le rôle pour vous des radios associatives dans le développement local.
Moi, au niveau radio associative, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche pour en avoir fait moi-même pendant 18 ans. Et je trouve que, notamment en milieu rural, c'est très important parce que c'est le premier lien avec la population. Donc pour le développement, pour faire passer des informations, c'est pour moi le média le plus important, le plus rapide d'accès et celui qui concernera le plus de monde à mon avis.
C'est quoi donc l'intérêt du média radio dans la vie locale, c'est vraiment ce lien?
Ah oui, justement, c'est ce lien parce qu'il rentre dans les maisons, les gens n'ont pas à aller chercher l'information sur le journal et c'est pas pour dire qu'il ne faut pas acheter le journal, bien au contraire, c'est un complément d'information, mais au moins ceux qui ne sortent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas, ont tous la radio et sont sûrs d'avoir cette information, et notamment cette information locale dont ils sont friands. Donc pour moi, c'est effectivement très important. Oui.
Quel partenariat existe entre radio et collectivité locale?
Il y a plusieurs types de partenariats, bien sûr. Bon, nous, en ce qui nous concerne à la CASE, c'est un partenariat annuel, reconduit chaque année avec Radio Lacaune. Et c'est un partenariat où... cette radio, notre radio, couvre toutes nos manifestations, dans la mesure de ses possibilités, ça doit bien arriver de temps en temps qu'on en rate une, mais couvre nos manifestations, en échange de quoi on parle, nous aussi, dans notre communication, de Radio Lacaune, bien évidemment. Après, il y a d'autres types de partenariats qui peuvent se faire, sans doute, j'en ai connu d'autres ailleurs, dans d'autres départements où j'ai vécu, mais c'est vrai que celui-ci, par contre, est très, très suivi.
Pour terminer, quel est votre meilleur moment de radio, alors en tant qu'auditeur ou en tant peut-être que bénévole en radio, puisque vous en avez fait?
Là, c'est difficile parce qu'il faut fouiller dans ses mémoires. C'est sans doute peut-être justement à l'époque où j'étais moi-même animateur de radio dans une autre région et où j'ai eu la chance d'interviewer en direct quelqu'un qui malheureusement est décédé le mois dernier, qui était le chanteur de Motorhead, Lemmy Kilminster. C'était peut-être... il y en a eu quelques autres, mais celui-ci m'a tout particulièrement marqué.
Et toujours pour rester dans le Tarn à Lacaune, eh bien le témoignage de Guy Sablérol, qui est maire de Lacaze.
Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, le rôle des radios associatives dans le développement local serait lequel?
Un rôle essentiel de communication, puisque notre souci, c'est de faire connaître l'action que nous menons au quotidien avec des moyens très restreints. Et donc, la radio libre, la radio associative implantée sur nos territoires est essentielle pour faire connaître nos manifestations, par exemple, mais aussi au quotidien les actions que nous menons.
Pour vous, c'est quoi l'intérêt du média radio dans la vie locale.
Je pense que ce qu'apporte la voix orale, c'est le prolongement peut-être de cette tradition que nous avons dans nos montagnes, où les gens peut-être ont moins la facilité de la lecture et ont l'habitude de faire perdurer la mémoire au travers du temps.
Quel partenariat existe entre les radios et les collectivités ?
Pour ce qui nous concerne, effectivement, je crois que la seule convention que nous avons, c'est avec Radio Lacône, depuis des années d'ailleurs, et nonobstant les alternances de municipalités, effectivement, Radio Lacône a toujours été un partenaire pour notre commune, et il n'y a pas de raison, en tout cas je souhaite pour ma part, que ça se poursuive dans l'esprit que nous travaillons aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Et alors, évidemment, nous sommes dans une émission qui s'inscrit dans une fédération régionale. Alors, on avait bien entendu envie d'entendre Aurélie Mayol, vice-présidente, nouvelle vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, en charge de la ruralité. On retrouve donc son témoignage au micro de 48FM.
Aurélie Mayol, d'après vous, quel est le rôle des radios associatives dans le développement local ?
Alors, bon, le développement local, déjà, c'est un vaste sujet, mais ma charge à la région concernant la ruralité, je vais m'en tenir au moins aux territoires les plus ruraux. Le rôle des radios, c'est pas seulement un rôle informatif. On peut imaginer simplement une action d'information auprès des citoyens sur l'actualité locale. Dans les territoires ruraux, ça va beaucoup plus loin. Et vous en êtes 48FM l'exemple, puisque vous avez des partenariats avec certaines collectivités, notamment au moment de grands épisodes Cévenol, vous intervenez pour prévenir la population. Donc les radios locales, c'est plus que de l'information. C'est de l'information, c'est de la participation à la vie locale. Vous intervenez aussi au moment des élections, vous organisez des grands débats. Et c'est également beaucoup plus qu'une voix derrière un micro, puisqu'on le voit bien autour de vous, gravitent des tas d'acteurs locaux, des associations culturelles, sportives, par exemple dans vos mags sportifs réputés en Lozère qui font le bilan des activités du week-end. Vous êtes important pour cette cohésion sociale, vous êtes en fait vous faites partie de ce lien entre les gens, donc vous jouez un rôle important en termes de développement local, parce que le développement local, c'est pas, on peut l'entendre seulement comme du développement économique, c'est pas que ça, c'est un ensemble de choses, et vous êtes important dans cet ensemble.
C'est la proximité qui définirait finalement l'intérêt de ces radios locales, associatives ?
Oui, c'est la proximité. Alors, l'information locale que vous donnez, on la trouve nulle part ailleurs, sauf dans la presse écrite, les quotidiens locaux, ou les quotidiens ou les hebdomadaires. Donc, cette information-là, elle est précieuse et ça permet aussi de débattre des choses qui intéressent au quotidien les gens. Vous faites notamment des émissions avec des écoles, des classes, de maternelle et de primaire. Ça, on le retrouve rarement sur les radios nationales et sur les radios non associatives encore moins.
Quel partenariat justement pourrait-on imaginer entre radio et collectivité en ce qui vous concerne, cette nouvelle grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ?
Bon, des partenariats, il en existe déjà. On parlait tout à l'heure des partenariats sur l'information et sur la prévention des risques. Il y a des partenariats financiers. Vous savez que la région intervient sur une ligne budgétaire auprès des radios associatives. Et demain, pourquoi pas imaginer, puisque vous êtes très proche des citoyens sur les territoires, imaginer peut-être des informations sur cette grande région et de nouvelles collaborations avec d'autres radios. Nous, on est dans le Massif central. Maintenant, dans notre région, il y a aussi le Massif pyrénéen. On peut imaginer des partenariats radiophoniques d'informations sur ces massifs.
À titre personnel, vous, quel est votre meilleur moment de radio en tant qu'élu ou simplement en tant qu'auditrice ?
Alors là, je vais répondre comme simple auditrice et je vais vous dire que le meilleur moment, en fait, c'est tous les jours, le matin, quand je me lève, j'allume la radio. Et pour moi, c'est un moment précieux parce que c'est un moment où on est un peu seul avec sa tasse de café, où on écoute les nouvelles du monde et puis après, on se lance dans le...
dans l'activité journalière. Donc pour moi, la radio, c'est pas un seul moment, c'est tout le temps. J'écoute tout le temps la radio, le matin, me levant, dans ma douche, dans la voiture. Donc ça fait partie de mon quotidien et mon meilleur moment, c'est tous les jours.
On a eu envie aussi, toujours à l'occasion de cette journée mondiale de la radio, pour continuer à parler de nos radios associatives, d'interroger d'autres médias locaux pour savoir qu'est-ce que c'était pour eux, quel était le partenariat qu'elles avaient avec les radios. Et nous avons donc en studio Caroline Gaillard, responsable d'agence Midi Libre à Mende, qui répond à quelques questions de 48FM.
Bonjour Caroline Gaillard, vous êtes responsable d'agence Midi Libre à Mende et j'avais envie de vous recevoir aujourd'hui pour vous poser la question de finalement quelle est la place des radios associatives dans le paysage des médias locaux.
Alors je vais parler, bonjour déjà, et je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la Lozère où les radios associatives ont une grande place puisqu'elles sont... Déjà en nombre, on va dire, hein, puisque les médias, on n'est quand même pas très nombreux et que les radios associatives tiennent bien leur place. Et que je pense qu'elles ont leur place en tant que médias et qu'elles sont écoutées par les auditeurs lozériens.
Est-ce qu'il y a des liens entre radio et presse locale ?
Alors chez nous, oui, il y en a, puisque nous travaillons... main dans la main, on va dire, avec 48FM sur Mende, un vrai partenariat qui se traduit par des journalistes qui sont bénévoles de la radio et puis aussi des émissions conçues en commun à certains, sur des événements ponctuels ou sur du plus long terme.
Avec une logique donc de bimédia, on va dire, donc d'avoir une interview à la radio qu'on retrouve dans le journal.
Complètement, voilà, c'est ça. C'est une interview à la radio ou un plateau radio qu'on retrouve traduit le lendemain à l'écrit dans le journal.
Finalement, quelle différence de traitement il peut y avoir entre le média écrit et le média radio, justement sur ce genre de sujet ou même d'une façon plus générale sur l'actualité locale ?
Alors le média radio, c'est vrai qu'on est à l'écoute et que par exemple une interview c'est facile à la radio, c'est un peu plus compliqué des fois de le traduire par écrit, notamment si c'est un plateau radio avec différents intervenants, mais je pense qu'on a vraiment une complémentarité justement par le fait d'avoir ces deux médias très différents.
Et sur le traitement plus général de l'actualité, au final on va retrouver... à peu près la même information, le même traitement sur les deux médias.
Oui, alors on a peut-être la chance sur la partie information d'avoir de la place. C'est vrai qu'une information radio, c'est souvent un sujet court. Nous, on a souvent un espace qui est plus important. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément plus en profondeur. Ça dépend vraiment des sujets. Ça peut permettre d'aller plus en profondeur. En tout cas, on traite la même actualité.
Donc, au final, parfois, c'est la radio qui en apporte un petit peu plus. Et parfois, c'est le journal qui en apporte
tout
un petit
fait.
Peu plus.
Tout à fait. Je pense que vraiment, on est très complémentaires.
Alors, pour terminer, parce que c'est une question qu'on pose à tous les invités de ce plateau et de cette émission, quel est votre meilleur moment de radio ?
Alors, je sais pas si je vais arriver à en sortir un. En tout cas, la radio a accompagné vraiment toute mon existence. On écoutait la radio chez mes parents et chez mes grands-parents. Alors, je me souviens que chez mes grands-parents, il y avait ce fameux jeu des 1000 francs à l'époque. J'étais petite et je trouvais ça assez rébarbatif. J'arrivais à répondre à aucune question. Mais en même temps, il y avait cette émission qui pour moi, faisait très sérieux. Chez mes parents, on écoutait une radio plus généraliste et plus yéyé à l'époque. Et après, j'ai continué seule à beaucoup écouter la radio. C'est un moment privilégié parce que on est à l'écoute et on... Ça laisse fonctionner l'imaginaire, la radio, je trouve, encore par rapport à la télévision. Et c'est quand même des moments forts.
Et pour le journaliste, pour la journaliste, c'est un média dont on se sert pour avoir l'info nationale.
Oui, en tout cas pour moi je l'écoute beaucoup. J'aurais rêvé de faire de la radio en tant que journaliste. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un peu le média de référence. Pas sûr d'avoir un grand moment. Je sais que certains en ont. Moi, c'est vraiment... Ça accompagne ma vie, vraiment.
Merci beaucoup Caroline Gaillard
merci
d'être venue nous parler de ce lien finalement entre presse écrite et radio.
Et allez, on se fait une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as choisi, Guillaume ?
Alors, je vous propose d'écouter Loïc Lantoine. C'était un concert qui a été enregistré le 14 novembre 2015, donc le lendemain de sérieux événements. Mais voilà, vous verrez, ça donne aussi de l'espoir.
Et c'était à Langogne.
D'un chagrin, j'ai fait un repos. Au coin de moi, je nous regarde. Et on a tout pour être beau. Même si le temps nous retarde. Humain, c'est joli après tout. On travaillera à nos rencontres pour unir les sages et les fous, lire la même heure sur nos montres. Alors c'est rien, c'est la fatigue. Si on a peur encore du noir, si on se cache, si on s'endigue, dès demain, on retournera voir. On peut bien pleurer dans nos bras. Hier, on se serrait les poings. J'ai pas senti qu'il faisait froid. Je reviens vite. Les copains, c'est pas la fin. C'est une pause. J'ai toujours eu l'envie des autres, de sourire à celui qui ose. De fourrir au moindre des nôtres. C'est juste que c'est la gueule au monde. Je sais, on fait jamais assez. On en a bouffé de l'immonde. Et puis après, ça va passer. Laissez vos lumières allumées. J'ai besoin de vous souvenir. Et si ce soir je vais pleurer, ben demain, je vais revenir. Chez vous, avec le Very Big Experimental Orchestra, on a fait ça. Merci, Béja.
Pourquoi avoir
d'avoir eu envie de passer derrière le micro.
J'ai choisi de faire de la radio parce que c'est ma passion. C'est un média qui est très intéressant, qui suscite l'imaginaire. Donc pour moi, je trouve que ça peut être intéressant de passer de l'autre côté du poste.
Bah, tout simplement parce que j'aime partager le bonheur par le biais de ce média et aussi par les réseaux sociaux, le sourire tout simplement.
Eh bien, ça a été un petit peu un cheminement progressif puisque j'ai commencé par donner des conférences sur le thème de la botanique, sur le thème de la Chine quand je suis rentré de ce pays où je suis resté 3 ans et demi. Après, bon, j'écris pour la presse, hein, je suis correspondant de presse pour La Montagne et j'écris pour la Dépêche d'Auvergne. Et c'est vrai que quand je me suis installé dans le Cantal, on m'a parlé tout de suite de Radio Marguerite, qui était une radio locale. Et j'avais la curiosité justement de connaître cette radio et de proposer cette émission sur les plantes qui a tout de suite été acceptée. Et c'est vrai que après, j'avais l'envie de faire un petit peu plus et j'ai été embauché.
Le fait de passer derrière le micro, l'envie, ça a été de partager, de communiquer avec les gens au niveau local. On s'aperçoit qu'on tisse un lien social avec les gens qui sont plutôt isolés chez nous. Et j'aime l'accordéon, donc de ce côté-là, j'ai été servie puisque l'accordéon, c'est tous les matins. Et il y a un autre côté aussi, c'est qu'on peut peut-être donner un coup de jeune à la radio, justement en proposant des émissions pour les jeunes l'après-midi et en soirée.
Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien dans votre travail ?
Alors moi, ce que j'adore dans la radio, c'est essentiellement le contact avec les auditeurs, car ils nous appellent très souvent pour les dédicaces ou les annonces de particulier à particulier, et également les balles que nous faisons avec la radio.
Et ce qui me plaît au quotidien, eh bien, c'est justement le fait de travailler en musique, c'est déjà très agréable. On a un contact avec les auditeurs aussi, c'est très appréciable. Et puis le fait de donner des infos pratiques avec nos annonces de particulier à particulier, ou annoncer les festivités des associations locales, c'est très bien aussi et on rend la solitude des personnes. Nous ne sommes qu'un petit pavé dans la mare, mais au niveau local, on a l'impression de servir vraiment à quelque chose, de participer à la vie de chacun des auditeurs qui nous écoutent.
Et je ne regrette pas du tout, je ne me voyais pas du tout au départ parler au micro, mais voilà, maintenant c'est fait, j'y suis et je m'y sens bien. L'émission que je co-présente avec Laurent, un artiste, une biographie, j'adore la présenter avec Laurent et ça me fait découvrir énormément de chanteurs ou chanteuses. Et grâce à Laurent qui a une autre culture musicale que la mienne, je découvre d'autres auteurs que j'apprécie beaucoup.
Ce qui me plaît, c'est de parler à chaque auditeur qui est derrière son poste ou dans la voiture ou dans le lit. Comme moi, je suis auditrice aussi. Et en même temps, c'est de pouvoir lui apporter des informations, aussi bien de la bonne humeur, que de pouvoir parler de tout ce qui est local dans notre région. Et donc d'être, entre guillemets, une petite star pendant une heure ou deux, ce qui est agréable.
Émission spéciale, Journée mondiale de la radio 2016.
Alors, on se retrouve pour cette troisième partie de notre émission, après ces témoignages de salariés des radios qu'on vient d'entendre dans ce micro-trottoir. Et on va parler maintenant de ces radios associatives en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Elles sont autour de pratiquement 80. Et on va retrouver pour en parler la présidente de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives. Bonjour, Eliane Blin.
Bonjour, bonjour à vous tous et aux auditeurs aussi.
Alors Eliane, tu as été un peu à l'origine de cette construction de cette nouvelle assemblée régionale. Il faut peut-être expliquer qu'il y avait deux fédérations régionales, une en Languedoc-Roussillon, une en Midi-Pyrénées, et que donc dans l'année 2015, vous avez beaucoup travaillé pour la constitution de cette assemblée régionale au niveau de la grande région. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre envie de faire ça assez rapidement, même avant même la création réelle de la région ?
Alors, d'abord, il y a beaucoup de choses dans ta question. D'abord, je suis à l'origine, mais pas toute seule. Voilà, ça c'est important de le dire. On était quand même un petit groupe qu'on avait appelé notre groupe de réflexion, où on échangeait pour justement autour de la pertinence de le faire et dans quel timing on devait agir. Et quelle était la situation des radios en Midi-Pyrénées, quelle était la situation des radios en Languedoc-Roussillon. Il y avait des disparités de traitement entre les deux régions et c'est ce qui nous a poussé à agir vite pour pouvoir interroger avant même les élections régionales, de pouvoir interroger les candidats et sensibiliser surtout les politique à cette question de la disparité de traitement entre les deux régions.
Alors, aujourd'hui, dans cet ensemble de presque 80 radios sur Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de radios associatives, quels sont les grands enjeux auxquels sont confrontées ces radios aujourd'hui et quels vont être les enjeux pour ces prochaines années ?
Alors, les grands enjeux aujourd'hui, c'est la première chose pour moi, ça serait qu'on reconnaisse fortement la place des radios associatives comme un média de proximité pouvant servir la région. C'est la reconnaissance du travail qu'on fait au plus près des populations. Ça, c'est un enjeu. Il faut convaincre plus que jamais. À très rapide échéance, nous allons avoir l'enjeu des appels à candidature que lance le CSA sur la radio numérique. Ça va être aussi un enjeu majeur pour au moins les radios des métropoles, des grandes métropoles, Montpellier et Toulouse. Et à l'avenir, c'est quelles solutions les radios associatives vont, quel financement les radios associatives vont pouvoir trouver pour continuer à vivre et à remplir leur mission de lien social et de proximité, de paroles données aux populations, de réflexion aussi. On est des médias qui permettent d'aborder des sujets, de réfléchir, d'être dans le très local, ce qu'aujourd'hui plus aucun média national ne fait, mais c'est normal. Nous, on est au plus proche des territoires.
Alors, on rappelle que cette assemblée régionale des radios associatives est très récente, hein, puisque l'assemblée constituante a eu lieu le 23 janvier et que c'est à cette occasion que tu as été élue présidente. Mais est-ce que déjà tu peux nous parler de projets, d'actions concrètes qui pourraient être mis en place par cette assemblée ?
La première action concrète qu'on a mis en place un peu vite, je dirais, pour juste se faire connaître et faire savoir qu'on existe, c'est cette journée mondiale de la radio et l'initiative de faire des plateaux radio par regroupement de départements. Peut-être on explique un petit peu ça pour la région étant très très grande géographiquement et regroupant de très nombreuses radios, puisque 80 c'est quand même un nombre de radios conséquent, on a choisi de travailler avec des regroupements de départements de façon de permettre de travailler par petits groupes de 10 radios environ, en moyenne, on va dire pour simplifier.
Alors, nous on est un petit peu plus nombreux dans le nord de cette région, et effectivement c'est toutes ces radios qui diffusent cette émission aujourd'hui, on les a citées tout à l'heure au début, on les recitera tout à l'heure à la fin, et ça correspond à autour de nous, autour de 15 hein, radios qui sont mobilisées sur ce nord du département, sur l'Aveyron, le Tarn et la Lozère. Voilà.
Oui, vous êtes un gros regroupement, mais vous êtes aussi très dynamique et très efficace.
Merci.
On essaie.
Et je vous en félicite.
Alors, donc, cette première action, en effet, je crois qu'il y a d'ailleurs une autre émission qui a lieu dans l'Aude, hein, c'est ça,
Tout
Guillaume ?
À fait, une autre émission qui a lieu dans l'Aude, qui est diffusée aussi sur les radios de l'Aude, sur cette journée mondiale de la radio.
De l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, oui, donc, voilà. Puisque c'est un autre regroupement.
Oui, et puis, il y a aussi des actions menées par les radios dans cette journée, et on peut saluer notamment les actions menées par Radio Albigès sur leur antenne et Radio Escapade également avec un plateau avec des créations radiophoniques.
Très bien.
Voilà pour cette...
De très belles initiatives.
Alors voilà pour cette première action. Est-ce que tu peux nous donner d'autres éléments, d'autres actions qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois ?
Alors dans les prochains mois, on va essayer de se rapprocher, on va pas essayer, on va réussir à créer des espaces de discussion avec les élus régionaux, puisque pour moi, la première mission d'une assemblée régionale, c'est de travailler à cet échelon régional. Et on va essayer de mettre la discussion sur la table de la situation des radios, de la nécessité aussi d'avoir une réflexion commune avec le CTA, puisqu'on a la chance en plus que depuis très très longtemps, c'est le même CTA sur Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Alors on va peut-être préciser pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce que c'est que le CTA.
Oui.
C'est la présence territoriale du CSA, hein, qui est notre autorité de tutelle, qui nous autorise.
CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Et le CTA, le Comité territorial de l'audiovisuel. Voilà. Et qui est basé à Toulouse et qui couvre effectivement, déjà historiquement depuis le début, y compris pour le Languedoc-Roussillon, les deux territoires des anciennes régions.
Donc c'est à cette échelle-là que nous, on va développer nos premières actions. Donc solliciter les services de la région pour commencer à vraiment et voir quelles campagnes, en quoi nos radios associatives vont pouvoir être utiles à la région pour communiquer et comment la région va pouvoir venir nous aider. Sachant qu'on va mettre en parallèle également la situation de l'État, de la subvention d'État avec le fonds de soutien.
Mais voilà, c'est effectivement des enjeux très techniques, très, très, très complexes. Et puis je pense que c'est aussi des coopérations qui vont se créer autour de projets, peut-être d'émissions, d'échanges de programmes. Enfin, tout ça qui va aussi s'accentuer avec cette fédération et finalement...
Effectivement, au-delà du rôle de l'action politique qu'on peut avoir à l'échelon régional, il y a l'idée de fédérer nos radios pour qu'elles travaillent ensemble. Et ça, je pense que les regroupements territoriaux vont fortement y aider.
Bien, ben merci beaucoup, Eliane, de ce témoignage aujourd'hui. Et puis, d'informer un petit peu globalement tous nos auditeurs de cette démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Je crois que c'est aussi important que tout le monde comprenne que c'est des médias associatifs qui ont aussi besoin à un moment d'être entendus, et c'était aussi l'enjeu de cette journée mondiale de la radio.
Merci, et puis on donne un petit bonjour aussi aux Hautes-Pyrénées, puisqu'on peut quand même dire que tu es aussi dans une radio à Luz-Saint-Sauveur, donc oui. Fréquence Luz, donc on fait c'est un petit bonjour à la Haute-Pyrénées.
La neige et la tempête, mais le soleil revient.
Merci beaucoup, Eliane.
Merci.
Merci à vous.
Émission spéciale, Journée mondiale de la radio 2016.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Une émission, on va vous rappeler qu'elle a été produite par 48FM avec Radio Bartas, Radio Margeride, Radio Lacône, Radio Temps Rodez. Voilà.
Et diffusée dans beaucoup de radios. Diffusée sur Radio Bartas, 48FM Mende, Radio Margeride, Radio Larzac, Radio Lacône, Radio Temps Rodez, Radio Albigès, Radio Sainte-Afrique, Radio Air d'Otan Lavore, CFM Rodez, CFM Villefranche, CFM Corde et Antenne Doc. Voilà donc une émission spéciale à l'occasion de cette journée mondiale de la radio. On remercie vraiment très fort les contributeurs et les diffuseurs. C'est une première expérience pour nous de travail en commun. Voilà. Et on remercie beaucoup 48FM de nous avoir ouvert leur studio pour cette émission.
Avec plaisir. Voilà, et donc on vous souhaite à tous une très bonne journée mondiale de la radio. Écoutez ce média, profitez-en. Et nous, avec grand plaisir, on sera derrière le poste pour vous proposer de belles émissions. Encore très longtemps, on l'espère.
Et on termine avec un petit micro-trottoir.
Et oui, alors à tous les gens qu'on a rencontrés, alors vous l'avez déjà entendu avec les élus et avec Caroline Gaillard de Midi Libre tout à l'heure, on leur a posé la question quel était leur meilleur moment de radio. Et là, on va écouter les autres, ceux qui, tout à l'heure, les auditeurs, les professionnels, les bénévoles qui nous ont confié leur meilleur souvenir derrière le micro ou derrière le poste.
Alors, ne quittez pas votre poste.
Quel est votre meilleur moment de radio en tant qu'auditeur ?
C'est un moment qui est ancien, je pense, au moins 30 ou 40 ans. Mais c'était une émission qui passait à midi à France Inter, qui s'appelait le Tribunal des flagrants délires. C'était vraiment tout à fait ça, des flagrants délires. C'était une émission drôle, un petit peu de promotion, avec des invités, chaque fois un invité, mais traité sur un mode humoristique qui nous faisait hurler de rire, qui restait dans les sonothèques et qui restait.
Le matin avec Pascal Clark, avec maman.
Alors, un souvenir incroyable. J'écoutais les radios françaises qui émettaient un peu partout du monde. Alors ça, c'était quand j'étais ado. Je me rappelle avoir écouté c'était l'anniversaire de la prise de pouvoir de Mao, et c'était soit 40 ans, je sais pas, peu importe. Il fêtait ça, et j'écoutais donc les actualités chinoises en français. C'était un moment inoubliable. J'avais 20 ans, 21, j'étais étudiant en histoire. Et c'est un moment incroyable de propagande chinoise, mais c'était un super moment.
Je vais dire en tant qu'auditrice, c'est la découverte d'une émission par hasard. C'était sur France Inter et un sujet, c'est assez récent, sur la télé-réalité. Et j'étais en voiture, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il parle de télé-réalité sur France Inter ? C'était l'émission Affaires Sensibles. Et il m'a emportée, en fait. J'ai écouté pendant une heure l'émission. Et voilà, ça a été le déclic sur le fait qu'on puisse faire de la radio et transmettre des choses à l'oral.
Quel est votre meilleur moment de radio ?
Moi, mon meilleur moment, c'est quand je suis allée rendre visite à Skyrock, puis y rentrer parce que j'ai fait l'école de radio à Toulouse, j'ai fait Suite Formadia, et que j'ai pris contact avec un animateur et qui m'a fait rencontrer l'équipe de Skyrock, donc D-Fool. Et quand D-Fool, je lui ai expliqué que je voulais faire ce métier-là grâce à lui, justement, et qui m'a donné des conseils comme si j'étais vraiment une professionnelle alors que j'allais à peine commencer. Et c'était cette considération que j'ai trouvée en fait juste magique, tout simplement.
Moi, j'ai créé une émission de sport qui s'appelle Balle au Centre. On parle de foot et de rugby, et dans une émission en direct, on a eu un fou rire. C'était très très long, les secondes en radio, quand on rit, c'est très 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 long.
Ça va être les meilleurs moments de radio et ça va être lors des montages avec les collègues ou lors des enregistrements. On a des fous rires, il y a des situations à chaque fois, juste au dernier moment, qui dérapent. Ça, c'est vraiment très appréciable et puis c'est la bonne humeur et travailler en équipe tous les jours.
Eh bien, les fous rires, c'est important, mais il n'y a pas que ça, oui, le travail dans la bonne humeur. Et sans être derrière le micro, c'est lorsqu'on organise nos balles musettes. Ça nous permet d'avoir un contact direct avec nos auditeurs qui apprécient également de nous voir.
Mon meilleur moment de radio, c'était l'année dernière sur une radio. Je faisais une matinale en fait, et il y a un petit garçon qui m'a téléphoné pour tout simplement me dire qu'il avait pas d'argent et qu'il voudrait offrir des fleurs à sa maman. Et nous, on offrait des fleurs justement à ce moment-là. Et bah forcément, je lui ai offert les fleurs x5 en fait, au final, pour sa maman. Et il était content.
Émission spéciale Journée mondiale de la radio 2016.
Journée mondiale de la radio. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Lara rassemble 70 radios associatives au plus proche de leur territoire pour des émissions spéciales et des plateaux débats. Le samedi 13 février, une action coordonnée par l'Assemblée régionale des radios associatives. We turn the blind eye to the middle, we are the world.